Mon pauvre Edouard, tu...
Oxy Radio, 100% jeune, 100% libre.
On est en direct. Bonsoir et bienvenue sur Radio Girol. Vous êtes à l'écoute d'Oxy Radio sur le web. Nous sommes nous en direct de Bordeaux, comme d'habitude. Tous les seconds mardis de chaque mois, nous parlons de culture libre avec vous. Ce soir, nous allons parler beaucoup d'Android avec notre émission spéciale dédiée à Android et tout ce qui est libre sur ce système d'exploitation mobile. Nous allons aussi parler un petit peu musique parce qu'on aime ça. Nous allons parler un peu jeux vidéo avec... nous allons parler aussi du Chaos Computer Club et plein de choses comme ça avec la bande de Joyeux Luron du collectif Girol. D'ailleurs, on peut dire bonsoir à Pierre Amiel qui vient d'arriver. Il nous fera peut-être l'honneur de venir discuter avec nous d'Android. Donc, vous êtes tous en direct du collectif Girol au centre d'animation Saint-Pierre à Bordeaux. Vous pouvez venir nous joindre. Sinon, vous pouvez nous joindre sur le canal IRC, irc.freenode.net. Le canal, c'est Dièse Girol. Voilà que je vois Isa qui va lancer son client histoire de vous répondre et puis de nous dire ce qui se passe. Un petit jingle, Isa, et on va lancer les news. Il va falloir que je mette un coup de pied au cul à Mathieu pour qu'il prenne le micro et qu'il écoute un peu, parce que ça va le concerner un peu. Voilà. Bonsoir, Antoine.
Bonsoir.
Bon, les gens arrivent en même temps, là, un peu tous ensemble.
Le transport en commun, c'est de la merde.
T'as balancé un jingle, Isa ? Ah non.
T'écoutes Radio Girol.
Radio Girol.
On va parler de jeux. Un peu la cohue parce que les mecs, ils arrivent tous au dernier moment et bien sûr, ils ne sont pas prêts. Ils n'ont rien préparé comme d'habitude. Il y en a qui planchent sur l'ordi, d'autres qui discutent alors que ça les concerne. Hein, c'est vraiment n'importe quoi, cette radio, comme d'hab.
Est-ce qu'on a souhaité la bonne année à tout le monde ?
Non.
Eh ben, on va peut-être pouvoir le faire, là.
Voilà, une très bonne année très libre. Bonne année.
Voilà, libre de la part de tous les Giroliens pour tous les Giroliens et tous les gens qui nous écoutent et voilà. Tous les autres gens du logiciel libre et tout le monde.
Voilà, tout le monde. Voilà, il y a une carte en préparation chez Girol, mais comme d'habitude, elle ne sera pas prête à temps, en fait. Donc, ne vous inquiétez pas, elle arrive.
Comme tous les ans.
Elle arrivera le 31 janvier.
Voilà.
Alors, on va commencer par quelques petites news autour du monde du logiciel libre. La première, ça concerne bien évidemment le jeu vidéo, parce qu'ici, vous le savez, on adore ça, le jeu. Et on compte d'ailleurs dans nos rangs de plus en plus de joueurs. Et d'ailleurs, le mec qui devrait être le plus intéressé par ça, il discute, il fait autre chose. Il y a eu la semaine dernière un autre Humble Bundle qui est sorti. Vous savez, c'est pack de jeux.
C'est le dixième.
Voilà, c'est d'ailleurs le dixième. C'est ce pack de jeux contenant des jeux compatibles Linux.
C'est pas le dixième qu'on dit.
C'est le Xème. Attention, ça devient pornographique.
Voilà, on peut croire comme ça, juste en lisant Humble X, que c'est par rapport au... Mais non.
Voilà, donc pour rappel, les Humble Indie Bundle, parce qu'il y a plusieurs bundles, et ça, c'est le Indie Bundle, et le Indie est très important. C'est un pack de jeux issus du monde du jeu indépendant, de studios indépendants, qui sont compatibles toutes plateformes, enfin presque toutes plateformes, mais ils ne sont pas compatibles Amiga OS, du moins pas encore. Ils sont compatibles Windows, Mac et Linux.
C'est surtout ça qui nous intéresse.
C'est surtout ça, Inixi, qui nous intéresse. Vous avez des jeux comme To The Moon, Joe The Ender 2, l'excellent Papo Enyo, un super jeu de plateforme magnifique, Beat Trip Runner 2 qui est fabuleux, et Reus, et surtout Sergent Simulator qui est assez marrant à jouer. Voilà, surtout qu'on fait n'importe quoi, c'est assez marrant. Il devrait annoncer d'ici la fin de la soirée d'autres jeux à venir pour ceux qui ont payé plus que la moyenne, parce qu'on vous rappelle le principe, vous donnez ce que vous voulez, et si vous donnez plus que la moyenne des dons, vous avez accès à des jeux supplémentaires. Ils sont en train de... Qu'est-ce que vous faites ?
Je vais rajouter par rapport à ce que tu as dit, Yorick, que toutes les musiques des jeux, il me semble, sont incluses dedans. C'est très intéressant.
Alors non, pas toutes, parce qu'il y a 6 jeux, il n'y a que 5. Ah non, okay. Non, cette fois-ci, non, il y a toutes, effectivement.
Toutes
cette
les
fois-ci,
musiques, voilà.
Il arrive qu'elles n'y soient pas toutes, mais vous pouvez en plus télécharger les bandes originales des jeux pour pouvoir les écouter.
Dont certaines en FLAC, donc c'est encore mieux.
Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, le FLAC ou FLAC, c'est un format de compression de musique qui ne perd, pas la qualité.
Voilà.
Sans perte de qualité. Ça,
et
c'était.
Je fais une petite parenthèse, j'ai écouté les musiques de... Alors, non, je confonds avec autre chose. Enfin, il y a un autre Humble Bundle, j'ai envie de dire de bêtises. De Humble Bundle Weekend, non, Weekly, me semble.
Oui. Toutes les semaines, ils proposent aussi des bundles de jeux.
Il est aussi assez intéressant et les musiques sont vraiment bien.
Oui, c'est celui avec, ça, c'est Frozen, avec The Frozen Byte.
Voilà, et Trine 1 et Trine 2.
Trine 2,
les bandes son sont superbes. Vraiment.
Alors, juste pour replacer un peu Thomas, c'est que toi, tu es sur Steam depuis pas longtemps et du coup, tu t'y mets à fond.
Exactement.
Alors, Thomas c'est ne cherche plus de travail dans le community management, Thomas joue.
C'est c'est pas exactement ça. Mais non, je suis retombé dedans parce qu'ils ont fait une offre très intéressante dernièrement sur Steam et puis je m'y suis remis finalement et. Bah, Yorick m'avait parlé d'Humble Bundle et finalement c'est bien tombé, c'est très intéressant.
Alors, Isa, juste pour info, tu leur fous à tous les deux des gros coups de pied au cul et tu les envoies ailleurs et tu prends leur micro parce qu'ils font rien. Il faut allumer le micro pour parler en fait.
On est très présent ici, on parle, et en plus on est dans le vif du sujet. Ah. On parle d'Humble Bundle, de Frozen Bytes, comment récupérer ces jeux et tout ça. Bon, après, il faut suivre quoi.
Mais ça nous intéresse au micro.
Bon, qu'est-ce que nous avons d'autre comme news diverses et variées ?
Non. Moi, j'en ai une, mais j'ai perdu le titre, donc il faudra parler d'autre chose le temps que je la retrouve.
Ah, voilà, c'est ça. Bon, mais je...
On commence l'année, mais en force, là.
Qui est toujours pas sorti.
Comment ?
L'Utris 0.3.3 qui est toujours pas sorti.
Oui, mais ça, c'est ta faute.
Mais tout, très bientôt, ça arrive.
Donc, pour rappel, Lutris, c'est aussi une plateforme de jeu. Enfin, c'est pas vraiment une plateforme de jeu, c'est un logiciel qui vous permet d'installer facilement sous Linux des jeux vidéo.
Ça aura une plateforme bientôt.
Bientôt. Oui, il y a déjà, on peut déjà s'inscrire pour installer facilement des jeux, on peut partager ses scripts d'installation, etc. C'est très très bien fait, on en a fait une petite démonstration il y a pas très longtemps, il y a pas très longtemps, lors d'une conférence, d'une réunion de bibliothécaires qui s'intéresse au livre. Donc, voilà. Mais je propose que Antoine, qui a pris la place d'Isa, alors c'est un peu les feux de l'amour ici, nous passe une petite musique. Moi, j'ai trouvé une petite musique qui m'a vraiment bien plu. Ah non, c'est Isa qui vient, non, c'est quoi? Non, attends. Alors, regarde.
Non, mais c'est un peu la catastrophe, en fait, parce que je viens juste d'arriver dans l'ordinateur, là. Donc, je ne sais pas du tout la playlist qui est en place.
Non, mais en fait, c'est exactement ce qu'on vous disait tout à l'heure à l'antenne, c'est que c'est n'importe quoi. Voilà. Alors, juste. On va passer un petit titre que j'ai trouvé aujourd'hui dans les archives de Dogmazic parce que je me suis un peu baladé sur les archives de Dogmazic. Ouais. Et en fait, le groupe s'appelle Brain Damage. C'est un groupe de punk rock français créé par deux personnes, Aylock MS Ellis et surtout Roland C. Wagner, qui est un écrivain malheureusement décédé tragiquement dans un accident de voiture en 2012, mais un écrivain qui est partisan du copyleft et surtout qui est à l'origine de la pétition qui contrôlera le futur, une pétition qui a été signée contre la loi Adopi. C'est un écrivain surtout de science-fiction et je suis vraiment tombé amoureux de ce morceau. Personnellement, il me fait penser à un groupe de punk rock français qui s'appelle OTH, pour ceux qui connaissent, mais qui n'est pas libre. Donc, c'est Brain Damage et c'est, je ne me rappelle plus du titre.
Méfie-toi du savant fou.
Voilà.
Oxy Radio, 100% jeune, 100% libre. Leur bonheur, tu es le héros.
Radio Station.
Oxy Radio, web radio francophone, 100% libre.
Et vous voilà de retour en direct de Bordeaux, toujours avec les joyeux lurons du collectif Girol. Alors, Thomas a retrouvé sa news.
Exactement. Moi, je voulais vous parler de ce qui va se passer le 11 février.
De cette année.
Vous souvenez, de cette année, exactement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Aaron Schwartz, je ne sais pas si je prononce correctement le nom. Oui, alors vas-y, Yorick m'a rajouté.
On lui met le hamster mort sur le micro pour pas que ça postillonne.
Sur le micro. Je ne sais pas si vous venez de Aaron Schwartz. Je m'entends très mal dans le micro.
Non, personne ne se rappelle, c'est qui ?
C'est le gars qui a créé Reddit, c'est ça ?
C'est le mec qui. Oui, un des cofondateurs de Reddit. C'est qui,
et qui a
été buté par le MIT, en fait.
Non, c'est pas exactement
le
ça.
Le MIT a des agents.
Il a participé notamment à la création du Markdown, pour ceux que ça dit.
De Markdown, de Markdown. RSS aussi.
Oui.
C'est un gros pente en fait, de l'Internet, mais on ne le sait pas.
Voilà, il est mort jeune, en fait, il s'est suicidé parce qu'il avait des poursuites vis-à-vis de. En fait, il a mis en libre disposition plein de publications scientifiques qui étaient soumises aux droits d'auteur. Il me semble qu'il était poursuivi par plusieurs instances et sous la pression, il s'est suicidé un an après le début des poursuites.
Ce qui s'est passé, c'est que le procureur surtout s'est acharné et quand le MIT a décidé d'abandonner les poursuites, le procureur a décidé de son propre chef de continuer à le poursuivre et donc voilà.
Et il me semble qu'il est mort le 12 ou 14 janvier 2013, il me semble, sans dire de bêtises, et un peu en son nom et à la défense de libertés sur Internet par rapport aux lois SOPA, PIPA qui ont pu être évitées. Il y a une journée qui a été créée donc, pour cette année, The Day We Fight Back, Against Mass Surveillance, donc le 11 février, je sais, mon accent est très mauvais. Et il y a plein de partenaires autour de ça. Il y a l'Electronic Frontier Foundation. J'ai la moumoute devant l'écran, c'est pas pratique. C'est assez comique à voir.
Alors, il y a, en fait, je vais le faire à ta place.
Vas-y.
En plus, bon, il y a Reddit, Mozilla, il y a l'Electronic Frontier Foundation, il y a Free Press, donc Boeing, plus d'autres Task Force, donc d'autres partenaires qu'on ne connaît pas forcément, mais il faut surtout retenir effectivement Mozilla, Reddit et l'Electronic Frontier Foundation que justement l'on soutient quand on achète un Humble Bundle.
Par exemple. Voilà.
Par exemple.
En fait, c'était un acteur pro-libre et pro-liberté des usages et des biens. Il s'est impliqué notamment dans Wikipédia auprès de la librairie du Congrès. Enfin, il a essayé de l'affaire pour laquelle il était poursuivi, c'était en gros libérer des documents publics scientifiques pour la communauté scientifique et étudiante. Quoi. Et bon, ça n'a pas été apprécié par tout le monde à sa juste valeur, apparemment.
Bon, nous allons clôturer ces news pour aujourd'hui parce qu'on est déjà un petit peu en retard sur le programme prévu et nous allons parler d'Android. Alors, vous connaissez tous Android, c'est un système pour téléphone portable qui prend de l'ampleur. Il prend tellement d'ampleur que ça devient maintenant le système d'exploitation sûrement le plus utilisé au monde. Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal, c'est que c'est du coup un Linux. Donc, Linux devient le système d'exploitation le plus utilisé au monde grâce à Android. Mais Android n'est pas aussi libre que l'on... Tout simplement parce que derrière, il y a une grosse entreprise, Google, et que si Google livre gratuitement, donne accès gratuitement au code source d'Android, c'est pour mieux vendre tout ce qu'il y a, tous ces services en fait qu'il y a derrière, et nous espionner un peu plus encore. Et donc il y a plein de choses que l'on peut faire pour justement se libérer un petit peu d'Android. Ce que je vous dis va être l'occasion pour Girol d'organiser toute une série d'ateliers durant le mois de janvier et une partie du mois de février autour justement de cette problématique d'Android, comment le personnaliser, comment se passer de certaines applications Google pour éviter d'être surveillé plus qu'on ne le devrait. Et donc, on va essayer ce soir de parler d'Android. Alors déjà, autour de la table, qui est utilisateur d'Android ?
1, 2, 3, 4...
Tout le monde.
Voilà, à peu près tout le monde. Même Antoine ?
Ouais, c'est du cyanogène. Alors, ta présentation, elle est encore un peu différente.
Ouais, mais t'as déjà utilisé de l'Android.
Oui, mais c'est de l'Android. C'est justement là où on veut en venir. Donc, on est tous utilisateurs ici d'Android, et vous, sûrement, de l'autre côté de la radio.
Les utilisateurs d'Android, qui sont les utilisateurs de cyanogène ?
Les gars, ils veulent déjà...
On rentre dans le détail, là.
Ils veulent rentrer dans le détail avant même d'avoir commencé.
Donc, tu parles mobile, mais il y a aussi toutes les tablettes.
Maintenant, effectivement, il y a les tablettes et il y a les téléphones.
Et les fablettes.
Et les fablettes.
Des tablettes et des téléphones.
La collision si, brusque existe. D'une tablette et d'un téléphone. Il y a aussi maintenant les set-top box et les Android TV qui commencent à vraiment bien fonctionner. Et on
commence. Des tablettes avec clavier.
Voilà, et des tablettes avec clavier.
Et les portables avec tablettes.
Et les.
En fait, mais sans souris. Les meilleures machines qui sont les machines avec des écrans 27 pouces et des claviers mécaniques qui n'ont pas Android.
Quoique, il y a Android.
Peut-être on pourrait faire porter Android X86 qui fonctionne sur PC.
Voilà. Il y a aussi les voitures maintenant qui s'y mettent. Il y a même des fabricants de voitures comme Audi qui en a annoncé au CES qui s'est passé à Las Vegas la semaine dernière. Grand salon de l'entertainment, allons-nous dire, des technologies. Audi a montré une tablette fabriquée par Audi qui doit résister à plein, être super résistante et pouvoir s'intégrer facilement dans les voitures. Il y a des voitures qui se mettent à utiliser Android pour leur système de navigation ou de contrôle. Enfin, Android est partout maintenant.
Et je rajoute même qu'il me semble que Intel veut faire certaines plateformes avec Windows et Android en même temps, dual boot sur certaines plateformes. Il semble que c'est passé au CES aussi, je ne sais pas si c'est une rumeur.
Oui, mais il y a plein
de projets par rapport à Android sur différents.
Et les Google Glass, elles sont sur Android ?
Elles sont aussi sur Android, les Google Glass, donc les lunettes connectées de Google qui vont permettre de faire de la réalité augmentée partout. Ou de vous faire agresser dans un McDo aux Champs-Élysées aussi, pour ceux qui se rappellent de la petite histoire.
Non, pas déjà.
Ah, c'est un chercheur du MIT qui s'était fait agresser parce qu'il portait des lunettes un peu à la Google Glass, sauf que ces lunettes étaient censées lui l'aider à voir parce qu'il était malvoyant. Et un videur très intelligent a essayé de lui arracher, sauf qu'elles sont implantées vraiment dans son crâne, en fait. Elles sont vissées au crâne et ça a donné lieu à une grosse protestation sur Internet. Voilà. Mais ce n'était pas des Google Glass, comme on l'entend. Alors justement, certains ont vendu la mèche. Ici, en fait, beaucoup de gens utilisent Cyanogen Mode. Alors qu'est-ce que c'est que Cyanogen Mode ? Qui peut ici me dire ce que c'est ?
Ah, les gars,
vous battez
pas. C'est une version un peu plus libre du système Android sans surcouche propriétaire, on va dire.
Alors, de base.
Sans la couche.
Historiquement, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, historiquement, Cyanogen, c'est un développeur qui s'appelle d'ailleurs Cyanogen, qui a remarqué que son téléphone n'était plus mis à jour en fait sur les versions récentes d'Android. Parce que c'était un vieux téléphone, il me semble que c'était le G1 de HTC, qui était l'un des premiers Google Phone, on peut dire que c'était un des premiers Google Phone, un téléphone de test pour le système, et il a décidé de se le fabriquer lui-même, et au fur et à mesure, il y a intégré quelques améliorations, et puis certains se sont mis à l'installer, et puis à participer au projet, et effectivement, c'est un projet open source, auquel tout le monde peut participer. Et c'est donc un système d'exploitation basé sur Android, mais différent, que l'on peut installer sur toute une série de téléphones. Pour une petite info, on va faire un petit tour de table. Vous allez donner la marque et le modèle de votre appareil et si vous l'utilisez ou non sous Cyanogen. Alors commençons par toi, Mathieu.
Alors, je suis sur Galaxy S2 et je tourne sur Cyanogen Nightly. Donc,
voilà.
C'est version 4.3.
Voilà. Donc ça veut dire que par exemple ton téléphone qui n'est plus mis à jour par Samsung utilise une version.
C'est la raison pour laquelle je suis passé sur Cyanogen Mode, c'est je voulais une version plus à jour d'Android et aussi une version qui se rapproche plus de la version de Google en me débarrassant de la surcouche de Samsung.
Voilà, qui est une véritable horreur. Et encore, on est poli.
Ça dépend des. Enfin, c'est pas dans mes goûts, on va dire.
Voilà. Alors. Edouard.
C'est la même chose en fait. Je suis en Galaxy S2 et j'ai du Cyanogen Mode Nightly.
T'es en Nightly maintenant ?
Ouais.
Alors Nightly pour
les stables, ça marche pas.
On va penser à nos auditeurs qui sont pas forcément très pointus techniquement. Une Nightly, ça veut dire que c'est une version qui est mise à jour toutes les nuits et qui se rapproche vraiment dès qu'une modification est faite sur le code, elle est intégrée directement dans la Nightly sans prendre le temps de vraiment la tester.
Vous pouvez l'utiliser que de 9h du soir à 6h du matin.
Non, c'est un paquet qui est fait tous les jours en fin de journée et qui contient les toutes dernières modifications. Donc parfois, c'est pas très stable.
Avec les risques
que c'est très stable, il faut utiliser des Nightly par exemple. Mon navigateur principal ici, ça s'appelle Nightly aussi, mais c'est un autre Nightly. il faut utiliser des Nightly, c'est le bien.
22h à 3h du mat pour ce navigateur.
Oui,
en fait, des fois dans Nightly, il y a des régressions, mais c'est vrai que la majorité des fonctionnalités sont là, marchent très bien, et c'est juste un petit truc qui va planter. Mais c'est
ça va dépendre de la marque aussi du téléphone. Je pense que selon le téléphone que tu as...
Ouais, ça va être en fonction des features.
Bon, le temps court, on va pas faire un débat sur les nightly et si c'est stable ou pas. On va passer à Isa. Alors, Isa.
Juste pour dire que j'ai un Nexus 4 sous Cyanogen aussi.
Voilà. Mais... Alors, notre petit Antoine, notre tech.
En fait, je suis comme Mathieu et Edouard. Hein. J'ai un Galaxy S2 et je suis en nightly. Sauf que la dernière Nightly que j'ai dû télécharger, c'était il y a 2 mois. Donc, je suis en Nightly, mais en décalage horaire quand même.
Tu sais qu'il y a une version de Cyanogen qui s'appelle la M, qui est une monthly, on va dire.
Ouais, qui serait peut-être plus propice.
Voilà, c'est une Nightly, mais qui a été un peu plus testée pour qu'elle soit un peu plus stable.
Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que même en Nightly, j'ai une stabilité largement plus grande que quand j'avais pas du tout, quand j'avais juste le Android fourni par le constructeur sur mon Galaxy S2, ouais.
Alors, maintenant, Thomas, à toi.
Je complète juste ce qu'a dit Antoine. J'avais un GS2 avant et effectivement, je pense que les GS2 sont assez connus comme téléphone et bien supportés. Je prends mon téléphone qui est une marque bizarre, pas connue. Je pense que si je vous dis Oppo, ça vous dit rien. C'est une marque hongkongaise qui se base... pas mal de matériel à l'intérieur est basé sur du Sony Ericsson. Mais
vous êtes deux dans le monde à l'avoir.
Voilà, c'est ça. Et le matériel, alors, je pense qu'il tournerait son Nightly. J'aurais beaucoup moins de stabilité que la version que j'ai. Moi, je suis en Cyanogen mode... donc stable, hein, je suis pas en Nightly. La 10.1, voilà.
Ça correspond à quoi, Android?
4.3.
4.3, ouais.
4.3, donc 10.1, c'est pareil. 4.2 ou 4.2.
Non, 4.2, pardon. 4.2. Ouais. Voilà.
Alors, juste pour faire une remarque sur le support, moi j'ai installé en fait une Nightly sur un Galaxy S1 qui ramait totalement sur du Android, qui était, je crois, bloqué en 2.3. Ouais. Et donc là, maintenant, il est en fait en 4.3, quoi. Et il marche très bien.
Alors, il y a plus aucun souci, quoi. C'est pas forcément une version progressante qui rame plus que la précédente.
Justement, ça, parler du Oppo permet de faire une jolie transition. C'est que, justement, Oppo n'est pas connu, quoique, mais ça risquerait changer pour les gens, les amoureux de Cyanogen, puisqu'il y a quelques mois, le développeur principal de Cyanogen a annoncé qu'il allait créer une entreprise et qu'il avait levé des fonds pour pouvoir, de par le projet open source et communautaire Cyanogen, créer une entreprise qui allait proposer à des fabricants de téléphones leur expertise autour du système Android. Et Oppo a répondu présent puisqu'ils vont être les premiers à commercialiser un Cyanogen Phone. C'est-à-dire qu'on aura le système alternatif Cyanogen avec toutes les améliorations que la communauté et les développeurs de Cyanogen ont pu apporter dans un téléphone et ce reconnu de façon native.
Et est-ce qu'ils ont donné une fourchette de prix par rapport au téléphone?
Pas encore.
Pas encore.
Il y en a pas encore.
Par rapport à ce que tu as dit, Oppo, c'est une des premières marques aussi à proposer jusqu'à 3 OS différents sur son téléphone, soit en Android, leur ROM modifié, soit Cyanogen Mode, soit, il me semble, la Color ROM, si je ne dis pas de bêtises, sur mon téléphone, notamment pour les dernières versions, les derniers téléphones vendus. 3 ROM officiellement supportés au choix de l'utilisateur.
Voilà. Alors, qu'est-ce que l'autre que tu disais, Color ROM?
Color ROM, il me semble que c'est la ROM de Oppo modifiée par les utilisateurs, il me semble.
D'accord.
Je ne vais pas y dire de plus, je ne sais pas plus après.
Donc, avec les apports de la communauté.
Voilà, exactement.
Est-ce que tu peux aussi installer Firefox OS et Ubuntu Touch?
J'en ai aucune idée.
Sur le Nexus 4, on peut.
Oui, c'est le seul device qui est supporté, d'ailleurs.
Alors, pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas trop, par rapport à ce management, on va recommander plutôt des téléphones, a priori, bien connus, comme les Nexus 4 ou les Galaxy S2, les Galaxy de façon générale. Plus le téléphone est connu on dirait dans le monde entier, plus il est a priori facilement supporté par Cyanogen Mode. C'est bon à savoir aussi pour quelqu'un qui veut utiliser Cyanogen Mode.
On a un commentaire de Pierrot, notre ami Pierrot du Hack Lab, qui nous dit qu'il a Cyanogen Mode stable sur un ZTE et que ça rame. Mais si c'est un ZTE Blade, c'est normal, c'est de la merde.
C'est dit.
En même temps, c'est vrai. Donc voilà, mais dans le monde du libre, en fait, il n'existe pas que Cyanogen en ROM, entendu, en système d'exploitation Android modifié pour vos téléphones. Il existe aussi d'autres ROM. Moi, personnellement, j'en ai testé d'autres, j'en ai testé plusieurs même. J'en citerai deux qui m'ont pas mal plu. La ROM Paranoid Android, qui base, il me semble, certains morceaux sur Cyanogen, mais ils ont rajouté une interface un peu à eux, qu'ils appellent Holo. Ils ont aussi rajouté tout un système qui permet de faire croire que mon téléphone qui a une densité de pixels très très forte il arrive à faire croire aux applications qu'il a en fait une densité plus faible pour qu'elle s'affiche en mode tablette sur un téléphone. Croyez-moi, ça sert strictement à rien.
Est-ce que ça te remplace tes sonneries de téléphone par du RadioAd?
Non.
Ah, dommage.
Dommage. Donc voilà, j'étais très content de Paranoid, puis je voulais passer un peu autre chose que Cyano. Et dernièrement, moi perso, j'ai testé Omni. Alors qui connaît la Omni ROM ici, en fait?
Je connais que Cyanogen Mode, j'ai pas confiance dans les autres, en fait.
Ah voilà, tu devrais pourtant.
Sinon, il y a Replicant aussi.
Il y a Replicant, mais ça, on en parlera après, justement, parce qu'on on va y venir après. OmniROM, en fait, c'est des gens, beaucoup de gens, enfin, quelques développeurs qui travaillaient avec Cyanogen sur Cyanogen Mode, et qui, en fait, ont été très, très déçus par le virage pris par Cyanogen et notamment la création de l'entreprise. Notamment un développeur français qui était censé faire l'application Cyanogen Camera, que tout le monde connaît sous le nom de Focal, qui est un appareil photo pour une application appareil photo pour Android qui fonctionne très bien avec plein de réglages assez avancés. Et du coup, on lui a demandé à ce développeur, enfin Cyanogen lui a demandé entre autres de laisser Cyanogen faire ce qu'il voulait avec son code et de faire des versions qui ne seraient pas réalisées en open source, chose qu'il a refusé. Et avec d'autres développeurs, ils sont partis et ils ont créé Omni, qui est une ROM basée pour l'instant beaucoup sur Cyanogen, qui serait plutôt dans l'optique Nightly. Il faut pas chercher la stabilité avec Omni et tout le temps mis à jour, qui est basé le plus, voilà, comme je l'ai dit, sur Cyanogen.
Alors, on va voir comme quelque chose encore d'assez jeune, en fait.
C'est quelque chose extra. C'est exactement ça. C'est quelque chose d'assez jeune. Moi, personnellement, j'ai commencé à utiliser Cyanogen sur Nexus One. Donc, ça remonte un peu. Tous mes téléphones sont passés sous Cyanogen. J'ai eu Galaxy S, Galaxy S2. J'ai eu un HP Pre 3, mais lui était sur WebOS, donc on va l'oublier. Et mon Nexus 4 restait juste sur Cyanogen aussi, jusqu'à ce que je teste Paranoid et Omni. Et pour justement essayer de trouver quelque chose, j'ai essayé Omni pendant maintenant, ça fait un bon mois que je l'utilise. J'ai effectivement quelques soucis que j'arrive pas à résoudre, notamment le fait que il veut pas filmer et que VLC plante lamentablement quand je veux ouvrir un fichier. Donc je ne sais toujours pas pourquoi, il faut que je me penche un peu sur la question, sachant que j'ai pas trouvé d'infos sur les différents bug trackers du projet. Donc pour rappel, le projet, vous pouvez trouver ça sur omnirom.org.
Ça va apparaître sur l'IRC dans peu de temps.
Voilà, ça va apparaître sur, on va demander à Antoine de le faire. Donc l'avantage, c'est que c'est une ROM en Android de 4.4, mais que pour l'instant, elle est pas très très personnalisée. C'est un peu le dommage. Ce que j'aimais bien sous Cyanogen, c'est que effectivement, vous pouvez confirmer, c'est le lanceur est vraiment le bureau, en fait, est extrêmement personnalisable. Il y a plein de paramètres pour pouvoir modifier le bureau qui s'appelle Trébuchet sous Cyanogen. Là, non, on se retrouve avec un lanceur, ce qu'on appelle le stock originel de d'Android. Et ma foi, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est déjà pas mal et on en parle de plus en plus. Omni, un peu la ROM montante ces dernières semaines, surtout après le passage de Cyanogen à une version plus, je dirais, du passage de la communauté à l'entreprise. Et personne n'a testé d'autre ici.
J'ai installé Ubuntu pour Nexus 7 il y a très longtemps, donc c'était avant les premières versions.
C'est d'Android.
C'est pas de l'Android.
Ben si, justement, c'était.
Il y a un noyau Android. Ouais.
C'était un noyau Android avec notamment le gestionnaire d'affichage Android encore à l'époque quand tu l'as testé.
Oui.
Avec Surface Finger, il s'appelle.
Même je crois que c'était avant ça. C'est pour ça que c'était très lent. Donc c'était juste le noyau Android et plus une couche, enfin le Ubuntu normal en fait. Pas du tout prévu pour Ubuntu Touch ni rien. C'était avant tout ça en fait. Et depuis, j'ai pas réinstallé Ubuntu sur ma tablette et ils vont arrêter le support de la tablette Nexus 7.
Mais il faut acheter un Nexus 4.
Non mais Nexus 7 2012 en fait, celle que j'ai. Alors qu'ils vont continuer le 2013.
Et oui, le but c'est que vous changez vos appareils régulièrement.
C'est surtout que c'est une plateforme en cours de développement, donc c'est normal qu'ils changent de plateforme, enfin qu'ils se mettent à jour.
Justement, quelque part, Cyanogen Mode et d'autres ROM peuvent apporter, comme tu disais tout à l'heure, Yorick, ce support sur des périphériques qui seront plus supportées. Pour la première année,
ça sera encore longtemps supporté par Cyanogen Mode. Un truc génial, c'est que j'ai aucune envie de changer mon téléphone. Mais vraiment pas. Quoi.
Ouais. C'est la dernière chose que je voudrais acheter, c'est un nouveau téléphone.
Alors, ce qui est drôle justement par rapport au Galaxy S2, c'est que moi j'en avais un, je l'ai revendu. Effectivement, je vois plusieurs personnes tout à l'heure qui ont un Galaxy S2. Il fonctionne très bien sous plein de ROM. On parlera de réplicant tout à l'heure qui supporte pas énormément de téléphones encore. Il supporte très bien le Galaxy S2. C'est un téléphone, il y en a peut-être d'autres, mais c'est un téléphone très bien supporté. Donc, il faut faire attention en choisissant son téléphone aussi si vous avez envie d'essayer des ROM alternatives, notamment si elles sont pas très connues.
En fait, il y a quelques téléphones effectivement comme ça qui sont bien reconnus. On pourrait citer les Galaxy, comme
Galaxy
le
disait, S.
Voilà, les Galaxy S, notamment, comme le disait Edouard tout à l'heure, les Galaxy S sont des téléphones bien reconnus par la communauté parce que s'ils ont été aussi très largement diffusés, ce sont des téléphones qui sont écoulés à plus plusieurs millions d'exemplaires.
Oui, très bien conçus aussi, enfin qui étaient vraiment dans la bonne gamme, enfin pas des trucs au rabais. Enfin, par exemple, il y a eu des Galaxy qui c'est pas cher. Enfin, je sais pas
les Galaxy
vaut,
Y, ça... les ouais, Galaxy ça, Ace.
Je sais pas ce que ça vaut. Ça doit pas être très bien, ça.
Trop cher pour ce que c'est.
Non, exactement. C'est pas des téléphones qui durent. Nous avons toute la série des Nexus. Le Nexus One. Je crois que par contre, le Nexus One, je me demande s'il est encore supporté par Cyanogen. Mais
Nexus One, ça commence à dater. Mais oui, ça doit être supporté par la version. Enfin, ça doit pas être la dernière version de Cyanogen,
oui.
Mais
tu dois toujours avoir... Il y a toute la Galaxy Nexus, le Nexus S et puis le Nexus 4 et maintenant le Nexus 5. Il y a les tablettes Motorola, notamment la Motorola Xoom, la première du nom, qui était la première vraie tablette Android, qui est encore bien supportée par tout un tas de ROM. Voilà, et les tablettes Nexus aussi, Nexus.
Galaxy Tab aussi, celles de Samsung, qui doivent se rapprocher d'un Galaxy S en fait.
Les Galaxy Tab, mais aussi parce qu'elles ont été très largement diffusées, donc elles trouvent un écho auprès des développeurs assez important. Justement, on va toujours rester dans le domaine des ROM, et on va juste maintenant parler de la ROM réplicante. Alors, qu'est-ce que c'est que réplicant ? Et vous battez pas
c'est
tous.
C'est Android.
Non, c'est un fork Android qui essaye d'implémenter encore plus de choses en libre, notamment les microcontrôleurs, des choses comme ça.
Apparemment, ils enlèvent d'abord et après ils essaient de remplacer.
Alors, pour faire simple, on dit qu'Android est libre, c'est un peu le problème que l'on a avec les PC, c'est que oui, c'est libre, le code est libre, sauf les pilotes qui permettent d'interagir avec les périphériques. C'est le cas notamment avec les cartes graphiques. Notamment, on sait que ATI est très mal aimé, surtout chez les Gyroliens, pardon, parce que justement,
il s'améliore,
mais comme le faisait remarquer Aïssa tout à l'heure, on en est à la version 1.15 du serveur d'affichage Xorg sous Linux, et ATI supporte la version 1.12. Ils ont quelques trains de retard, hein, ils font un peu ce qu'ils ont envie, mais parce que justement, ce n'est pas libre, ils font ce qu'ils veulent. Il existe un pilote libre, mais les développeurs le font par rétro-ingénierie, c'est-à-dire ils essayent d'analyser le code compilé pour essayer de deviner ce que fait le pilote de périphérique et c'est pas toujours joyeux. Et bien, ce réplicant, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le code open source Android, ils vont enlever tout ce qui n'est pas open source, ce qu'on va appeler les firmware, les micro-programmes qui se logent dans les tout petit bout de mémoire de votre carte Wi-Fi, de la puce qui permet de se connecter en 3G, de la puce Bluetooth, ces petits bouts de code qui sont propriétaires, donc qui ne sont pas libres, et on va essayer de les remplacer par du code que l'équipe de réplicants aura produit de façon libre.
Et alors ils font le même principe, hein, c'est qu'ils prennent les entrées-sorties de chacun de ces programmes pour exactement reproduire le même fonctionnement.
Ils font de la rétro-ingénierie, c'est un travail non seulement de titan, mais en plus un travail très pointu qui prend beaucoup de temps. Et voilà. Mais au final, les gens qui utilisent Réplicant, et je pense qu'il ne doit pas en avoir beaucoup, malheureusement...
Comme le nombre de téléphones supportés actuellement.
Voilà. N'ont pas toutes les fonctionnalités.
En fait, disons qu'il y en a plein qui sont supportés, mais il n'y a pas la téléphonie, ce qui est assez embêtant pour un téléphone.
Mais il y en a en fait qui sont supportés, mais qui ne sont pas listés sur leur site web. En fait, ils sont supportés parce qu'ils utilisent les mêmes microchips que ceux qui supportent déjà, mais ils n'ont pas fait la liste exhaustive, donc il faut essayer.
En fait, ils se basent sur les téléphones que la communauté veut bien leur envoyer ou les téléphones qu'ils ont eux personnellement. Alors, rappelez-vous, nous avions interviewé ici, pour ceux qui nous suivent de façon régulière, Polka, qui est un développeur du projet Réplicante. Il est venu nous en parler lors de nos manifestations Girol et il nous en avait parlé à la radio. Lui-même utilise un Samsung, un Galaxy S3.
S3, oui.
Et par contre, effectivement, il peut téléphoner. Il a le Wi-Fi fonctionne, je crois.
Il me semble.
mais il y a un élément, il me semble, qui fonctionne pas bien.
La 3D. Il n'a pas l'accélération voilà. sans matériel sur la 3D. L'avantage du, pour lui du Galaxy S3, c'est que le processeur principal est suffisamment véloce pour pouvoir, pour je afficher, dirais,
ouais. afficher. Sans accélération graphique, mais il n'y a aucun, aucun device qui est supporté par Replicant qui offre la 3D, justement. Mais si on continue le parallèle avec les machines, enfin, avec les PC ont quand même un bien meilleur support des drivers libres. Que ce qu'on a avec Replicant. Quoi.
Alors, est-ce que c'est justement pas dû à l'ancienneté ? Le PC est là depuis longtemps, les développeurs travaillent depuis longtemps, font de la depuis longtemps.
Peut-être, et aussi, c'est une plateforme beaucoup plus ouverte.
Voilà, quoi, c'est pas le même usage non plus.
Les constructeurs sont souvent plus coopératifs, on a plus le choix, les machines sont plus modulaires. Si on prend pas le cas d'un portable, mais si. On peut changer une carte graphique, on peut changer de carte Wi-Fi, on peut tout changer en fait. Donc, s'il y a un périphérique qui n'est pas supporté, on peut toujours le remplacer par quelque chose qui est mieux supporté.
Oui, mais derrière, justement, est-ce que le fait que les téléphones sont extrêmement fermés, c'est qu'on a pour l'instant très peu d'utilisateurs de Replicant, c'est infinitésimal comparé au nombre d'utilisateurs. Les gens qui font des ROM custom s'appuient sur des récupèrent les pilotes au niveau, en binaire pour les intégrer, parce que de toute façon, il n'y a qu'une seule plateforme, c'est l'ARM, donc les pilotes normalement sont compatibles d'une machine sur l'autre, parce que c'est le même type de processeur. Est-ce que justement, c'est pas ça qui pousse aussi qui rend difficile
C'est d'une part la coopération des constructeurs, qui ne font pas des drivers libres à la base, parce que sur Linux, on a quand même beaucoup de. La plupart des pilotes qu'on a sur Linux sont libres. Et sur Android, par contre, c'est une exception. Je ne suis pas au courant de constructeurs qui font.
Mais si on reparle justement de l'analogie avec Linux, on a des pilotes libres qui se sont faits par rétro-ingénierie, sauf Intel.
Pas forcément. Oui, si tu parles de GPU ou des choses.
Oui, comme ça. Je parle de GPU. Je reste sur l'accélération.
Si tu parles par exemple de Wi-Fi ou de cartes réseau, des choses comme ça. Tu as plein de constructeurs qui font par défaut du libre quoi, pour l'intégrer directement dans le noyau.
Mais alors, chose assez particulière justement de ce côté-là, c'est que Qualcomm, qui fabrique des puces ARM pour téléphone, ne rend pas ses drivers pour ces puces-là libres, notamment la partie graphique. Mais par contre, Qualcomm développe la gamme de puces Wi-Fi Atheros, et le pilote Atheros est sûrement l'un des mieux supportés dans le monde du libre. Il est tellement bien supporté, le code est tellement bien documenté que c'est un chip que l'on retrouve fonctionnel sur d'autres plateformes comme l'Amiga OS ou Aros par exemple ou d'autres systèmes. Donc effectivement, ce que tu dis est vrai, il y a des constructeurs qui du côté PC font l'effort d'eux, l'exemple de Qualcomm est vraiment parlant, ouais. Mais qui côté ARM reste fermé. Est-ce que c'est pas aussi le fait que l'ARM, en fait, quand on développe des puces ARM, Qualcomm n'est qu'un fondeur de puces ARM, et il achète les brevets. En fait, il achète la licence d'exploitation de l'architecture ARM à Korn. Je crois que c'est à Korn.
Je ne sais pas au courant.
Korn, oui, une entreprise basée en Grande-Bretagne. Voilà, exactement.
Oui.
Et, du coup, je voulais ajouter par rapport à ce que tu avais dit tout à l'heure, la démarche des constructeurs sur PC est différente parce qu'il y a pas mal de matériel professionnel qui, justement, utilise Linux. On va dire, entre guillemets, ils ont besoin d'avoir des drivers ouverts, ce qui est moins le cas sur Android.
Pour maintenir leur driver, le plus simple, c'est d'arriver vraiment dans le noyau. Il n'y a pas photo. Par exemple, installer un driver graphique ATI ou par les points run, par des fichiers que tu télécharges sur AMD, ou de l'avoir directement support dans le noyau, parce que c'est beaucoup plus simple de l'avoir dans le noyau. Ça marche directement. Donc, il y a beaucoup quand même de constructeurs qui ont une motivation pour être diffusés comme ça. Sur Android, c'est pas pareil parce que ça va être un constructeur qui va faire tout le système. Le méthode de diffusion est pas pareil en fait. On n'a pas le concept de distribution, tout ça.
Mais le fait qu'effectivement, on parlait tout à l'heure de ROM custom, de ROM personnalisé pour son téléphone, c'est à en parler, c'est simple, à installer, beaucoup moins.
Oui, déjà c'est pas simple et puis en fait, c'est les gens qui font. Font la démarche de l'installer, qui vont avoir accès à ces ROM. En général, c'est la grosse différence avec Linux sur PC, c'est que Android, c'est vraiment disponible de partout. On peut acheter du Android n'importe où. Alors que sur PC, il faut faire la démarche d'installer Linux sur son PC. Facilement. C'est une démarche beaucoup plus volontaire.
J'en reviens à Replicant, et notamment ce que nous a expliqué Polka, parce qu'il y a quand même une raison de pourquoi on passe ces drivers en open source.
La démarche, c'est surtout que apparemment sur les téléphones mobiles, il y a quand même une grosse boîte noire sur ce que font ces drivers, puisqu'ils peuvent communiquer avec tout un tas d'interfaces comme l'appareil photo, le GPS, le réseau mobile, et potentiellement sont des points d'entrée d'un point de vue sécurité pour ces données personnelles, que ce soit pour un hacker ou un gouvernement. Donc la démarche aussi, c'est la première démarche, hein, en tout cas que j'ai compris moi quand Paul Cole avait expliqué, c'était aussi de bien faire en sorte de maîtriser ce genre d'outils qu'on a installés, qu'on a sur le téléphone, qui à ce jour ne sont pas maîtrisés.
Ouais, ça, ce genre de faille serait quand même possible. Moi, enfin, avec un système qui est libre par-dessus, c'est quand même assez difficile de faire des backdoors comme ça, mais ça reste possible avec des.
Tant qu'il y a des binaires que l'on ne maîtrise pas, c'est possible.
Oui, mais après, voilà, il y a des, moyens de contrôler avec un système libre, de voir s'il y a du trafic réseau ou des choses comme ça. Enfin, on a quand même plus de contrôle sur son téléphone que si c'était un truc totalement fermé. Mais voilà, dès qu'il y a du blob binaire qui est fourni dans le. Alors que ce soit dans le système ou dans les puces directement, c'est un des gros problèmes, c'est que des fois, le pilote, le code, il n'est pas dans le système.
C'est le firmware de la puce directement.
Voilà, c'est le firmware, enfin, on peut pas
qui est très souvent propriétaire.
On peut pas y toucher. Ouais. Et ça, oui, c'est pratiquement toujours propriétaire.
C'est un peu le fondement même du hardware. Si on prend l'Arduino, par exemple, le firmware même de la puce principale d'Arduino n'est pas libre. Enfin, parallèle par rapport à ça, il y a beaucoup de firmware, énormément de firmware de puces électroniques, que ça soit de la toute simple puce de 1 MHz jusqu'au processeur ARM assez récent. Il y a encore beaucoup de firmware qui sont propriétaires. Et je voulais rebondir à ce que tu disais tout à l'heure. On prend l'exemple du modem. Tu parlais d'Antoine, on prend le modem dans un téléphone. Le modem peut communiquer avec la carte SIM, mais la carte SIM peut aussi donner des ordres au modem. Donc, par exemple, je prends le cas extrême, NSA, tout ça. Un opérateur peut très bien envoyer des ordres à la carte SIM qui va commander le téléphone pour prendre une photo, par exemple, pour récupérer des données. C'est un exemple extrême, mais c'est possible parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, comme tu disais, avec les différentes interfaces, les différents drivers sur les matériels à l'intérieur.
Alors, je pense qu'on reparlera de ça un peu plus tard. On va peut-être faire une petite pause musicale et après je vous propose de parler de F-Droid, marché d'applications alternatifs et libres que l'on peut installer facilement sur son téléphone. Oui, tu mets ce que tu veux, Antoine.
T'avais pas de musique prédéfinie comme
non,
ça?
Non, j'en ai trouvé une, c'est déjà pas mal.
Alors, Isa est en train de me guider, peut-être. On a les trois petits points qui étaient venus en concert il y a quelques années. Trois petits coins.
Trois petits points.
À Radio Girol. Allez, c'est parti.
Girol, la radio libre. Girol.
L'histoire peu commune du poisson nommé Alphonse, errant sous toutes les roches à la recherche d'une réponse, il se dit:
ma foi, si je continue ainsi, je ne trouverai jamais mon paradis. Ma condition de poisson va devenir un calvaire. Je dois trouver un moyen de quitter cet univers.
Et levant les yeux vers son ciel argenté, il vit des silhouettes étranges et brillantes s'agiter. Des signes, langage inconnu comme une invitation. Il ne put résister, s'efforcer à la tentation. Il frétille et palpite quand il voit le filet. Son ennui, il le quitte pour pouvoir s'envoler. Au début, stupeur, il faut s'habituer à cet air. Mais tout le monde sait qu'on doit souffrir lorsque l'on veut plaire.
Et c'est ainsi qu'au lieu de finir sur un étalage, j'ai réussi à séduire tous les hommes de la plage. Ni casserole, ni frigidaire, j'ai évité ce sort cruel pour frayer avec les stars du bocal télévisuel.
On parla donc de lui dans de nombreuses émissions. Bon pour les enfants, prétexte à toutes les promotions. Posant dans les magazines du monde entier, il éclipsa même les vedettes qui ne purent le supporter car lui, le bel Alphonse, ce spécimen si solitaire, attira la convoitise. Tout le monde voulut son exemplaire. On se mit donc en quête d'adopter chacun de ses frères. Ce qui aboutit, comme il se doit, à en vider la mer. Et même si, par souci de cohésion, on avait fondé pour lui une ligue de protection.
Dans mon bocal, j'ai pas le moral.
Alphonse lui-même l'a reconnu. Trop acheté ou trop vendu, trop vanté, je n'existe plus. C'est déboire du poisson mort dans l'hameçon. Pour sortir, se faire voir n'est pas seulement fiction. Car homme, lama ou loir, si tu veux vivre plus d'un soir,
Le mieux est encore de le faire sans histoire.
You're listening to the fucking Radio Girol.
Girol Radio Station. Et vous voilà de retour sur Radio Girol en direct d'Oxy Radio et aussi en podcast sur Révolution Sound Record. On a un peu oublié d'en parler tout à l'heure. Ou pas. On en reparlera un jour. Vous êtes avec nous. Voilà, c'est une émission spéciale Android. On a parlé de ROM, on a parlé de réplicants, de vie privée, tout ça, tout ça. Et maintenant, on va parler de marché d'applications. Alors, vous utilisez un téléphone, que ce soit Android, iOS ou même Windows Phone. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a peut-être parmi vous qui ont un Windows Phone. Hein. On vous plaint d'ailleurs tous, ceux qui ont des Windows Phone. Voilà, bonne chance. Et vous utilisez donc un marché d'applications. Maintenant, si vous avez un Mac ou si vous avez un Windows 8, qui est une belle saloperie, il faut le préciser quand même. J'ai une dent contre Windows 8. Vous utilisez peut-être aussi un marché d'applications. Vous savez, les trucs sympas où on recherche, on télécharge une application qu'on veut. Et il n'y a pas forcément d'applications libres. D'ailleurs, sur le store de Apple, il n'y a pratiquement pas d'applications libres parce qu'ils n'aiment pas ça, le libre Apple. C'est un peu paradoxal. Mais bon. Et nous avons ici à Radio Girol, au collectif Girol, pardon, nous avons un marché d'applications alternatives qui s'appelle F-Droid. F-Droid, c'est un marché d'applications, mais c'est avant tout un logiciel libre qui est fait pour installer facilement tout un tas d'applications libres sur votre téléphone. L'avantage de F-Droid, c'est qu'il propose en fait F-Droid est connecté au dépôt d'applications F-Droid et c'est l'équipe de F-Droid qui, la plupart du temps, compile les applications en y intégrant une clé pour être sûr que vous téléchargez la bonne application. Voilà, donc c'est quand même relativement sécurisé.
Et il me semble que l'équipe de F-Droid fait partie de la Free Software Foundation.
Ils sont reconnus par la Free Software Foundation. Donc vous avez tout un tas d'applications libres. Moi je sais que j'utilise beaucoup. Je cherche avant tout à regarder sur F-Droid s'il y a une application qui me convient libre, plutôt que regarder sur le Google Play Store qui en plus me piste comme ce que fait Google. On aurait pu d'ailleurs parler justement d'applications que l'on peut installer qui limitent les possibilités des applications Google comme qui désactivent le GPS pour Google Plus par exemple, etc. Mais ça pourrait être l'occasion.
C'est natif ça en fait dans
Cyanogen, c'est natif. C'est natif.
C'est aussi un des trucs qui est intéressant. On
peut contrôler ce qu'elles font et ce qu'elles ont le droit de faire. Alors on va faire un petit tour de table. On va commencer par Mathieu parce que je sais qu'il a pas F-Droid. Alors tu utilises F-Droid?
Je suis en train de l'installer. En fait, il est à 100%. Voilà.
Voilà, donc Mathieu utilise F-Droid.
Voilà, Mathieu. Et alors, on te questionnera la prochaine fois pour savoir quelle application tu aimes sur F-Droid, laquelle tu utilises.
Alors, tu peux te dire quelle application je n'aime pas. Alors, apparemment, je ne pas aimé Brownie Life Wallpaper. Ça, je la salerai pas.
Non, mais ça veut dire qu'on peut installer F-Droid pour Florent.
Oui, il y a aussi des conneries sur F-Droid.
Mais elles sont libres, c'est des conneries libres.
Je regarde un peu les applications qu'il y a.
Bon, on reviendra vers toi tout à l'heure. On va continuer avec Edouard. Alors Edouard, est-ce que tu utilises F-Droid?
Oui. Et en fait, j'ai plus d'appli que ce que je pensais installer avec F-Droid. Donc c'est
cool. Alors, qu'est-ce que tu utilises comme appli? On va faire un listing très complet. Après, tu vas t'arrêter sur une appli que tu aimes bien en particulier sur F-Droid.
Donc attends, qu'est-ce que j'utilise comme appli globalement?
Globalement, les applis qui te marquent le plus sur F-Droid, tu vas nous en citer quelques-unes.
Ben en fait, c'est plutôt des trucs liés au respect de la vie privée, des choses comme ça quoi.
Il
y a AdBlock Plus, vous connaissez sûrement, c'est une extension Chrome ou Firefox. Voilà, qui permet de bloquer la pub. Là, l'idée c'est que ça bloque les pubs, en fait ça fait pointer les adresses IP des pubs vers le téléphone, donc en gros ça arrive pas à résoudre les pubs, donc pas à les charger.
En clair, en fait, c'est que c'est un bloqueur de pubs pour application Android.
Ouais, alors ça marche plus ou moins. Il y a des fois où elle passe.
C'est AdBlock ou c'est AdWay?
Non, c'est AdBlock. Non, c'est AdBlock. Oh, AdBlock Plus. Je dois confondre avec AdWay. Excuse-moi. Je pense que j'ai les deux, mais j'ai pas dû l'installer avec F-Droid d'AdWay.
Moi, je l'avais, mais ça marchait pas très bien. Il me semble qu'ils font un téléphone routé, si je dis pas de bêtises, pour les applications notamment.
Ouais, il me semble.
Voilà. Il fonctionnait pas très bien, et Google, qui aimait pas trop ça, m'a dit, attention, méfie-toi cette application. Avec un message d'erreur, tout ça.
Oui, bien sûr.
Comme d'habitude.
Après, sinon, c'est des outils de gestion en fait du téléphone, genre Ghost Commander, c'est un explorateur de fichiers qui est plutôt sympa. Il y a tous les modules en fait. Enfin, y a...
qui permet aussi de se connecter en FTP ou en SSH ouais, sur son FTP, serveur SSH, perso, SSH, par
Samba
exemple.
Et ils sont sur le l'App Store Google, mais ils sont aussi sur F-Droid. Donc moi, je les ai virés depuis le Google App Store et puis je les ai réinstallés. Après, vous avez le Hacker Keyboard qui doit être utilisé par plusieurs personnes. En fait, ça donne accès à plein de touches un peu plus compliquées que les lettres et les chiffres.
Ami du terminal sur Android,
ça donne accès à un vrai clavier.
Voilà, il y a le slash, le backslash, voilà. Des trucs comme ça.
Un vrai clavier complet, en fait, il y a une option pour passer à 5 rangées de touches. Et là, on a les flèches, on a Tab, enfin, on peut utiliser une console SSH.
Le aussi faire du C++ sur Android.
Tu peux faire du Pipe aussi, parce que la touche Pipe, je crois qu'elle n'y est pas sur les claviers de base. Je sais pas.
Et en fait, je regarde là, donc j'ai ouvert F-Droid, j'ai regardé les applications disponibles, j'ai pas vu des choses que je connaissais. Mais par contre, dans les applications installées, il y avait déjà plein de choses qui étaient installées. Et donc c'est toutes les applications que j'ai installées via le Play Store,
Open source.
Qui sont libres. Donc je vois les licences à côté, c'est Apache 2, c'est GPLv3, c'est...
C'est aussi un des avantages moi, que je trouve à F-Droid, c'est qu'il est explicite sur la licence, il nous donne la licence d'utilisation du logiciel.
Et donc, je rends compte, en application libre, il y a Transport Bordeaux qui est bien utile quand on habite à Bordeaux. Pareil, Hackers Keyboard que j'ai aussi installé. Les applications comme le client IRC, Ubuntu One, enfin.
Alors, on va passer à la suite. On va passer à Isa. Alors, Isa, est-ce que tu utilises F-Droid ?
Ben oui, j'utilise F-Droid, donc j'y pense pas tout le temps, mais ces temps-ci j'y ai pensé un petit peu, voilà. Donc j'ai installé des trucs, parfois je les ai virés, parfois je les ai gardés, parfois je les utilise pas. Donc j'ai Adaway, qui me sert, mais je le vois pas, il est en tâche de fond, donc effectivement c'est bien pratique parce que aux endroits où il y a les pubs sur certaines applications, il y a pas les pubs, donc ça c'est bien. J'avais installé FTP Server parce que j'en avais besoin à un moment donné, c'est bien pratique aussi. Qu'est-ce que j'ai installé ? Ah oui, j'ai installé un petit logiciel rigolo. C'est pour faire ma liste des courses, ça m'évite d'écrire ça sur papier maintenant. Ça s'appelle Trolley. Et donc voilà, ça permet de faire sa liste des courses, de remplir son caddie. Et une fois que c'est fini, check out. Et puis voilà, ça garde en mémoire. Voilà, c'est. Voilà. L'appli pour l'IRC, ça fait très longtemps que je l'ai, via AIC. Via F-Droid aussi, SMS Droid, mais le problème c'est que je peux pas envoyer de SMS via cette appli, je sais pas pourquoi, j'ai pas tout compris. Il y a des trucs que j'ai, je les utilise pas forcément, mais OSM AND, donc l'appli OSM, qu'il faut télécharger par F-Droid parce que sinon on n'a pas les maps, tout ça, je me rappelle plus du détail au sujet des...
C'est surtout qu'on a la dernière version gratuitement alors qu'il faut la payer, sous forme de don. Voilà, sachant qu'il vaut mieux donner directement sur le site de l'auteur parce que quand vous payez sur les App Store, Google prend une marge d'à peu près 30%. Donc, il vaut mieux acheter directement, faire un don de la valeur équivalente sur le site de l'auteur. Au moins, il gagnera plus d'argent.
Je vous ai fait un résumé parce que bon, il y en a que j'utilise pas forcément tout le temps. Il y a une jauge de niveau. Il y a un truc qui permet de piloter Ardour. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé. Donc voilà. Un barcode scanner pour scanner les codes barres. Voilà, ça c'est pratique aussi.
Alors, on va passer maintenant à Thomas. Alors, et vite parce qu'on n'a plus de temps là.
Moi je parle d'une application super confidentielle et quasiment peu utilisée, Poche, qui en fait est une sorte d'application mobile de l'outil Poche qui s'installe sur son serveur. Et en fait, c'est une sorte d'équivalent de Pocket pour à qui ça parle, qui s'est enregistré. Par exemple, vous avez un exemple bidon. Vous avez un article que vous avez beaucoup aimé sur le Gorafi, par exemple. Donc, vous le mettez dans Poche, et comme ça, vous pouvez le retrouver plus tard et le lire en ligne. En fait, ça, c'est l'application mobile de l'application web Poche, qui fait pas grand-chose sur Android et qui marche pas parfaitement, mais c'est un exemple.
D'accord. Quelles autres applications rapidement? Tu peux citer certaines qui ont déjà été
utilisées. VLC, par exemple, qui existe sur le Play Store, mais qui existe aussi sur F-Droid, donc autant l'utiliser.
VLC sur Android?
Non, c'est la 0.1.3.
Parce qu'il y avait plein de
apps qui attendaient VLC. Stable, mais très incomplet. Enfin, d'après les dernières nouvelles, il était très incomplet. En fait, on pouvait lire des vidéos. La chose la moins intéressante qu'on puisse faire sur VLC. Pour moi, quand j'utilise VLC, c'est vraiment pour faire du streaming, pour faire des trucs
Ça marche. Je stream en HTTP avec.
On peut streamer sur Android.
Oui, on peut streamer. Je stream en HTTP depuis mon serveur.
Évolué, en fait,
et ça stream bien parce que je stream du HD et que ça, des MKV et ça envoie.
Pour lire des vidéos, même en HD, ça passe. Enfin, moi, sur mon téléphone, j'ai aucun problème.
Lire des vidéos sur un téléphone, c'est un intérêt limité. Puis de toute façon, en général, il y a toujours un lecteur vidéo qui est disponible. Enfin,
Oui, qui dit pas forcément tout, mais bon.
Sauf quand t'es dans ton pieu et que t'as pas envie de te lever, allumer la télé, et du coup, tu mets le casque et puis tu regardes sur ton téléphone.
Il y a forcément un lecteur vidéo par défaut sur Android, non?
Bah, pas qu'il lit du HTTP, par exemple.
Pas qu'il lit du HTTP, mais là, on en vient à une initiation.
Ça fonctionne. T'as une petite icône qui représente une flèche en haut à droite, et puis tu appuies dessus, tu colles ton lien et ça fonctionne.
En lecture, donc.
Citer deux autres. MuPDF qui lit très bien les PDF et qui fonctionne rapidement. Il fait très bien son boulot, donc j'utilise régulièrement.
Et surtout, il est beaucoup moins bavard que le client officiel de Adobe, qui lui est une vraie
Et qui demande beaucoup plus d'autorisation.
Qui demande beaucoup plus d'autorisation, mais qui communique énormément aussi avec les serveurs d'Adobe pour donner quelques petites informations.
Voilà. Et c'est aussi ça qui est bien sur le store, c'est qu'en fait, il vous donne des infos sur ce que va faire l'application. Notamment, moi, AdBlock Plus, c'est ce qui m'avait surpris. En gros, il indique que l'appli vous traque et fait des reports d'activité vers un serveur et qu'elle peut contenir de la pub. Donc, voilà, vous savez à quoi vous attendre. Quoi.
Le code, non seulement il est compilé, mais il est zioté un petit peu par les bénévoles qui participent au projet F-Droid.
Et enfin, un dernier, WeChat, qui permet de chatter sur IRC et.
Mais il faut un serveur WeChat.
Voilà.
Oui, oui.
Honnêtement, j'ai paramétré, mais ça fonctionne pas.
Si, si. Alors, moi, je l'avais testé, ça marche. Je l'avais fonctionnel sur mon téléphone.
Il faut bien la faire, et bien la régler, ouais. En fait.
Par contre, je l'ai pas.
Moi, j'ai d'autres exemples. Moi, j'utilise aussi F-Droid. D'ailleurs, je pense réinstaller bientôt, mon téléphone sans du tout aucune application Google. J'utilise notamment Dash Clock Widget. C'est tout un ensemble de widgets pour le bureau qui sont assez sympas et qui permet de faire un écran d'accueil. Un résumé sur l'écran d'accueil de nombre de coups de fil ratés, des SMS, des messages. J'utilise Canine, l'excellent Canine Mail, qui est un client mail beaucoup plus complet que celui fourni par défaut.
Et qui gère PGP en plus.
Qui gère PGP, le chiffrage PGP, qui gère les notifications push depuis vos propres serveurs IMAP, ce qui est le cas ici.
Tu peux redonner le nom de ton client mail?
Canine. Tu penses à Canine dans Doctor Who.
K9 mail pour les gens qui parlent
mal anglais. Ouais, c'est anglais en fait.
Oui, c'est une référence au Canine de Doctor Who. Oui. Voilà. J'utilise O-Hand Backup qui permet de faire des backups de mes applis et de leur données, notamment quand j'ai des jeux. J'ai pas envie de recommencer tout depuis le zéro chaque fois que je réinstalle un système. SMS Backup Plus qui me permet de backuper tous mes SMS et mes journaux d'appels directement sur mon serveur IMAP. Comme ça, j'en garde une trace. L'appli moi que j'utilise le plus et qui me sert le plus, même si je l'ouvre jamais, c'est DavDroid qui permet de synchroniser par CalDav et CardDav mes contacts et mes calendriers qui sont stockés sur mon serveur avec l'excellent serveur Radical écrit en Python. Ça devrait te faire plaisir, ça.
Très bien, ça.
Voilà, donc j'ai pas mal d'applis et je pense que ma prochaine installation du téléphone, ce qui ne saurait tarder, ça sera sans aucune appli Google. Puisqu'il y a aussi OSMIND qui est un très bon GPS, utilisé en plus en conditions réelles pour me déplacer dans une ville que je connaissais pas.
J'ai pas testé les clients OSM sur Android. Si ça se trouve, j'espère que c'est meilleur que sur PC, en fait, que sur web.
Je t'en ferai une démo. On verra.
Leur
tourne, en fait, et ouais. Je voudrais qu'on parle du Chaos Computer Club, parce que notre ami Edouard a travaillé dessus et que ça serait vraiment dommage. On va passer à toi, Edouard, et ensuite on fera un point sur les ateliers à venir chez Girol, qui n'intéressera malheureusement que les gens qui sont dans Bordeaux ou la région.
Oui, alors c'est pas vraiment du Chaos Computer Club, c'est le Chaos Communication Congress, qui est géré par le Chaos Computer Club, dont je vais parler. Mais bon. Donc, alors par contre, je précise, je viens de préparer ça totalement à l'arrache pendant la radio, donc j'ai essayé de récupérer des infos à droite à gauche.
Ouais, mais t'auras déjà plus travaillé que tous les mecs autour de la table là ce soir.
Peut-être pas toi quand même.
Ouais.
Moi, j'ai un peu travaillé un peu. Hein.
Voilà. Après, dans la journée, j'ai pas fait grand-chose, j'avoue. Donc, alors c'était fin décembre dernier, il y a eu donc le 30e Chaos Communication Congress. C'est une réunion en fait d'ampleur internationale qui se tient à Hambourg en décembre. C'est quelque chose qui date de 1944,
qui
est la plus grosse association de hackers d'Europe.
Et c'est surtout la plus ancienne.
Oui.
C'est le club informatique, sûrement l'un des plus anciens, qui a été fondé effectivement dans les années 80 en Allemagne.
Voilà. Et en fait, ils existaient avant que les hackers Space, que les Fab Labs, les machins labs et tout existent et soient tendance. Donc c'est vraiment là, il y a des gros trolls, des gros hackers, des vrais, des bons.
La culture,
c'est pas méchant.
En même temps, c'est le plus gros troll girolien qui te dit ça.
Ouais.
Donc c'est une conférence là cette année. J'ai été assez surpris en fait par les chiffres parce que cette année il y avait 9000 participants quand même. Donc c'est enfin moi je pensais que c'était genre
au lieu de 6000 l'année dernière il me semble.
Voilà. Ouais. Donc ça fait 30% de croissance, c'est quand même c'est énorme.
C'est les mecs qui vont pas à la conférence RSA, la RSA, ils sont allés voilà, c'est ça, ouais. Ils vont pas à la conférence RSA donc du coup ils sont allés voir le Chaos Computer Club.
Je pense que les affaires avec Snowden, la NSA, tout ça a dû leur faire un petit
bonne
peu
prise de conscience.
Après petit détail, bon, c'est une conférence sur 4 jours
et 3 nuits.
Trois nuits, bon. Ça a été un débat tout à l'heure avec Thomas. Ça s'organise en fait autour de sessions qui sont officielles, en gros, donc des conférences et de workshops qui sont ad hoc. En gros, c'est du mode barcamp. Et vous venez, vous organisez votre truc, vous bidouillez avec des gens. À une époque, il y a apparemment eu une compétition de crochetage de serrure pendant 4-5 ans. Apparemment, ça y est plus. Je sais pas pourquoi. J'ai pas eu le temps de trouver pourquoi ça y était plus.
C'est plus assez compliqué pour eux maintenant.
Ouais, voilà, ils ont peut-être qu'ils savent tous déjà faire. Au niveau des sujets en fait qui sont abordés, c'est un peu bizarre. Alors j'ai trouvé ça sur le site officiel. Hein, dans les thématiques, ils parlent de art et beauté, du CCC, donc Chaos Computer Club, de l'entertainment, de l'éthique, société et politique, hardware et création, musique, autres. Sciences et ingénierie, sécurité et safety, je ne sais pas comment on traduit safety en français. Et voilà, donc c'est assez large en fait, hein. C'est de l'esprit hacker, c'est, je pense, de l'esprit assez ouvert. Donc si vous voulez y aller, c'est tout à fait possible, je n'ai pas regardé trop les tarifs, désolé. Mais il y a toutes leurs ressources sont ouvertes et sont sur Internet. Ils streament leur sessions sur Internet. Ils les mettent en dispo après coup sur leur site web avec des métadonnées et tout sur les confs. Il y a notamment un XML là que j'ai commencé à analyser tout à l'heure pour essayer d'extraire la liste des conférences, mais en fait il y en a vachement. Donc c'est un peu compliqué. Si vous voulez, je mettrai tout ça en fait sur le fil Twitter, les liens vers les ressources. Et au niveau de ce que j'ai vu, en gros, il y avait une thématique sur to protect and infect, la militarisation de l'internet, qui en gros parlait des histoires de NSA, de WikiLeaks, des choses comme ça. Il y avait aussi une session intitulée Sysadmin of the World Unite. Donc en gros, Sysadmin du monde, unissez-vous quoi. Et apparemment, c'était fait par Julian Assange, qui a fait une intervention, notamment, je sais plus trop quel jour, mais il a fait une intervention.
Qui a mystérieusement coupé plusieurs fois pendant son intervention.
Ouais, mais bon, il racontait pas des trucs non plus super tendancieux, quoi. Après, moi, j'en ai vu qu'une seule sur la cognition et la prise de conscience de ses apprentissages. J'ai pas tout compris parce que le gars, il avait un accent allemand et tout. Donc, il faudrait que je la revoie. Alors c'est une conf qui se veut quand même ancrée dans la culture allemande, donc ils ont une histoire par rapport à la surveillance de la vie privée avec la Stasi, tout ça, donc ils sont beaucoup plus sensibilisés en fait que les Français à ce genre de problématiques, et ça se retrouve en fait dans la conférence quoi. Et la conférence s'ouvre de plus en plus à l'international, mais garde quand même un gros cœur germanophone, donc il y a des conférences qui sont uniquement en allemand. Il y en a qui sont apparemment qui sont doublés, je ne sais pas si c'est le cas de toutes, et il y en a d'autres qui sont carrément en anglais. Donc ça reste quand même accessible si vous parlez anglais. Si vous parlez pas anglais, je ne sais pas s'il y a des gens qui sous-titrent. Il y a peut-être des projets de traduction, il faudrait voir. Après quoi d'autre, je sais. Ah si, oui, si, autre chose. Alors, on est censé faire une plus ou moins une rétrospective en fait du 30e congrès, donc 30e Chaos Communication Congrès au Labix ce soir.
Donc, après Girol,
voilà,
tout à l'heure.
Après Girol. Alors moi, j'ai une partie des vidéos sur mon ordi. J'espère qu'ils ont un projo là-bas. A priori, j'avais compris qu'il y avait un projo dans les bâtiments.
Il y a une télévision, il me semble.
Sinon, il y a une grande télé qui doit faire 1m50, 2m.
Alors, juste pour que ceux qui nous écoutent et qui sont dans les parages, s'ils ont envie de venir vous voir au Labix.
Ben, nous, on va y aller.
L'adresse.
L'adresse, c'est.
Il
faut aller au terminus du tram, quelqu'un m'aide. C'est Terre-Neuve. Et après, c'est.
Un conseil, prenez un cadencier avec vous. Le lieu est un peu abandonné, il y a des trucs qui rôdent.
Après, c'est vers une lampe de poche.
Vers la droite.
Il faut pas rentrer dans n'importe quel bâtiment.
Voilà. Puis un pied de biche, ça peut aider aussi. Une hache aussi.
En fait, je voulais, il faut la jouer à Morgan Freeman. Prenez votre combinaison avec la lumière, le
pied de biche. Ou à la Dead for Dead.
Je comparais ça plus à Silent Hill parce que c'était plus ouais, aussi, voilà. Ambiance, mais ça fait un peu peur quand même.
Ouais, c'est vrai que l'accès est assez space, quoi. C'est dans les anciens centres, locaux des centres de tri de la Poste.
De la Poste.
Voilà. Future cité numérique. Voilà. Alors vous trouverez, cherchons bien.
Les bâtiments, ils vont rester ou ils vont être détruits?
Améliorés.
Ça fait pas très cité numérique, ça fait.
Bon, je pense qu'il est vraiment l'heure qu'on coupe parce qu'on a déjà 6 minutes de retard, plus ou moins. Donc on
j'aimerais racheter rapidement les prochaines sessions. Non, c'est vraiment important. Mais les prochains ateliers.
C'est ce que j'étais en train de faire.
Vas-y, continue.
Alors, nous vous le disions, nous avons un mois spécial Android chez Girol. Si vous voulez installer votre cyanogène sur le téléphone ou simplement avoir un peu plus d'informations, si vous voulez entendre parler de F-Droid, vous venez nous voir. N'importe quel mardi de 18h30 à 20h30, nous sommes là. Nous avons prévu cependant le 21 janvier avec Polka quelques ateliers autour de 1 Cyanogen Mode et Android et F-Droid pardon. Donc des démonstrations cette fois-ci sur écran géant etc. de comment on installe, qu'est-ce qu'on y trouve. Et ensuite nous avons aussi un deuxième atelier contribuer et installer répliquant. De toute façon vous trouvez tout ça sur le meetup du collectif Girol, sinon on en reparlera sur le fil Twitter et sur Google+. Voilà, nous avons aussi d'autres ateliers de prévus. Très important, nous avons le collectif Girol va participer à la semaine du son qui est la première semaine de février. D'ailleurs, à ce propos, le mardi 4, il n'y aura pas d'atelier au collectif puisque les locaux seront utilisés pour la semaine du son.
C'est dommage parce que c'est celui qu'on avait prévu pour faire le montage des interviews.
Et oui, mais malheureusement, il ne sera pas là.
Je vais pouvoir aller à l'apéro Ruby.
C'est ça. Par contre, le samedi 8, nous vous donnons rendez-vous le matin ici. On fera une émission spéciale de radio en direct avec tout un tas d'ateliers autour des logiciels libres et du montage son. On va parler d'Ardour, on va parler aussi de notre régie son pour la radio, donc IDJC et Icecast.
Donc on peut recaser notre atelier.
On peut recaser notre atelier, effectivement. Exactement, on recase l'atelier montage son le samedi 8 au matin avec une radio Girol en direct. Peut-être pas sur Oxy Radio, mais on le fera chez nous.
Donc le 4, pas d'atelier. Le 8, c'est samedi matin, journée spéciale.
Exactement. Le 4, on en profitera sûrement pour tous aller voir nos amis du Labix avec nos lampes de poche et nos crowbars.
Et nos pizzas surgelées.
On peut même faire une radio en direct avec un smartphone.
Ouais, si on a Doxy. Non, mais c'est pas le deuxième mardi de chaque mois, c'est pas possible. En attendant, il faut.
Non, mais on s'en fiche, on peut le faire chez Radio Girol quand on veut.
On peut le faire quand on veut. En attendant, on vous souhaite à tous une excellente soirée. Nous espérons que vous avez apprécié et que vous n'avez pas été perdus par tous ces propos techniques de cette bande de geeks, pas trop barbus, hein. Un peu Edouard.
À peine.
Nous, on vous donne rendez-vous donc en février. Il faut juste que je trouve la date. Si c'est pas le 4, c'est le 11. Donc le mardi 11 février à partir de 19h. Et on parlera sûrement de plein de choses.
Et continuez à nous suivre sur Twitter, Facebook, Google+, et l'IRC.
Et bientôt Movim. Allez, bonne soirée à tous.